Vatican News, le journal, il est 8h30.
Angélus, le pape François appelle à briser les idoles et à entrer dans la logique de l'amour. Le Saint-Père est revenu sur les béatitudes dans l'évangile de Luc. Burkina Faso, le cardinal Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou, revient sur la violence croissante d'origine djihadiste qui frappe son pays et dont un prêtre a été victime la semaine dernière. Mohamed Ben Salman a entamé une tournée asiatique. L'héritier du trône saoudien est au Pakistan pour y signer plusieurs contrats. Il visitera ensuite l'Inde, le grand rival d'Islamabad. Au Venezuela, Juan Guaido prépare ce qu'il appelle une avalanche humanitaire. Il rassemble des centaines de milliers de volontaires pour distribuer samedi prochain l'aide bloquée aux frontières. Cette semaine aura lieu au Vatican la rencontre sur la protection des mineurs, un rendez-vous très attendu. Nous reviendrons sur ces problèmes d'abus avec le père Joulin, père blanc et psychothérapeute. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Le journal, Xavier Sartre.
Bonjour, retour donc sur l'Angélus d'hier midi, place Saint-Pierre. Le pape a appelé à briser les idoles et à entrer dans la logique de l'amour en méditant sur les béatitudes de l'évangile de Luc. Il a ainsi mis en garde contre un monde d'illusions. Delphine Allaire.
Voir avec le regard du Christ au-delà des apparences, de la surface des choses pour discerner toute situation avec foi. C'est l'enseignement tiré par le pape François qui a développé la force des béatitudes. Le pape qui rappelle que seuls les pauvres, les affamés, les affligés et les persécutés sont déclarés bienheureux par Jésus et non les riches, les repus ou les rieurs. À cela, François conseille de se réveiller de la dangereuse illusion de l'égoïsme et de s'ouvrir à la logique de l'amour tant qu'il en est encore temps. Effectivement, pour le pape, tout l'enjeu réside dans la résistance aux idoles mondaines, aux factices distributeurs de bonheur.
Siamo chiamati alla felicità e lo diventiamo fin da ora nella misura in cui ci mettiamo dalla parte di ciò che non è effimero.
Nous sommes appelés au bonheur, à être dans la béatitude et nous le devenons à partir du moment où nous nous plaçons du côté de ce qui n'est pas éphémère mais dur pour la vie éternelle. Ne pas faire confiance donc au matériel ni aux passagers, aux vendeurs de fumée ou aux professionnels de l'illusion, mais s'ancrer dans la vérité de l'éternité.
Delphine Allaire et le pape, après la prière de l'Angélus, a évoqué la semaine prochaine, enfin cette semaine pardon, à la rencontre pour la protection des mineurs qui se tiendra de jeudi à dimanche. Je vous invite à prier pour ce rendez-vous que j'ai souhaité comme un acte de forte responsabilité pastorale et ce pour affronter un défi urgent de notre époque, a-t-il expliqué. On reviendra sur cette rencontre dans notre dossier. Émotion et hommage à Madrid et à Ouagadougou après la mort d'un prêtre espagnol salésien vendredi dernier au Burkina Faso. Le père Antonio Fernandez, 72 ans, a été tué par des djihadistes lors de l'attaque d'un poste douanier à la frontière avec le Togo. Les attaques terroristes sont de plus en plus nombreuses dans le pays. Le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou, retrace les origines de cette violente djihadiste au Burkina et lance un appel à la solidarité.
Il y a eu un soulèvement populaire qui a fait partir l'ancien président. Un nouveau gouvernement a été installé après des élections libres et acceptées par l'ensemble de la population. Dès lors que ce gouvernement a pris le pouvoir, s'est déclenché ce phénomène des attaques terroristes. La capitale a connu 3 attaques terroristes. C'est là où nous avons certainement un appel fort à lancer. À Dintra, il y a un réveil de solidarité et de collaboration très forte pour qu'ensemble nous puissions relever ce défi de l'insécurité. Il faut certainement que la population coopère davantage avec les forces de défense. Par rapport à la communauté internationale, une initiative heureuse est née suite aux événements douloureux que nous vivons. Ce que nous appelons le G5, des promesses ont été faites pour soutenir cette initiative. La solidarité ne s'est pas manifestée à la hauteur de nos attentes. Les financements promis n'ont pas été obtenus. Le manque de moyens rend inefficace cette structure qui pourtant est pleine d'espérance. Ça peut arriver à n'importe quel pays. Il nous faudrait ensemble collaborer davantage, pas en parole, mais de façon concrète. Voilà un peu une attente très forte de notre part en tant que leader religieux au service du bien commun dont la paix est un élément essentiel.
Le cardinal Ouédraogo, l'archevêque de Ouagadougou. L'insécurité chronique dans l'est de la République démocratique du Congo pousse Médecins sans frontières à suspendre au Sinédié ses activités dans la zone de santé de Mazizi, dans le Nord Kivu. L'ONG craint les enlèvements de son personnel. MSF assurera tout de même des soins d'urgence à l'hôpital de référence de la ville. Le 8 février, deux de ses agents locaux ont été enlevés par des hommes armés non identifiés. Libération en Libye des 14 Tunisiens enlevés jeudi dernier dans la ville de Zawiya. Les forces de sécurité ont pris d'assaut le lieu de leur détention. Aucune victime n'est à déplorer, assure le consul général de Tunisie en Libye. Aucune nouvelle n'a filtré sur le sort des ravisseurs qui réclamaient la libération d'un des leurs emprisonnés en Tunisie. Le gouvernement israélien n'apprécie pas que l'autorité palestinienne verse des allocations aux familles de prisonniers palestiniens auteurs d'attentats. Du coup, Israël va geler 138 millions de dollars qu'il devait verser aux Palestiniens au titre de la TVA et des droits de douane qu'ils prélèvent sur les produits qu'ils importent. Les responsables israéliens estiment que ces allocations encouragent la violence. Le président palestinien considère, lui, qu'il s'agit d'un devoir national, humanitaire et social. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, a commencé hier une tournée en Asie. Il a atterri au Pakistan et partira demain en Inde. Sa visite attise déjà les rivalités. L'Arabie Saoudite a en effet annoncé des projets d'investissement de 20 milliards de dollars au Pakistan, alors que la tension monte entre Delhi et Islamabad. Les précisions de notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville.
En entamant une tournée en Asie, le prince héritier d'Arabie Saoudite espère rompre son isolement diplomatique. Mohamed Ben Salman est de plus en plus esseulé en Occident depuis le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. La première étape de son voyage passe par le Pakistan. Islamabad a besoin d'investissements pour endiguer la baisse de ses réserves de change. Riyad va financer la construction d'une raffinerie dans le port de Gwadar. Il s'agit de concurrencer le port voisin de Chabahar en Iran, grand rival de l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient. Mohamed Ben Salman ira en Inde demain. Sa décision d'investir 20 milliards de dollars au Pakistan ne devrait pas être très bien accueillie. Delhi veut couper le Pakistan de la communauté internationale et l'asphyxier économiquement après l'attentat qui a coûté la vie à 40 paramilitaires indiens au Cachemire jeudi dernier. Cette attaque suicide a été imputée au Jaïch-e Mohammed, un groupe djihadiste pakistanais. New Delhi, Emmanuel Derville pour Vatican News.
Et ce matin, des affrontements au Cachemire indien entre des soldats et des insurgés. 4 jours après l'attentat suicide qui a tué 41 paramilitaires indiens ont eu lieu. Une fusillade a donc éclaté alors que l'armée effectuait une opération dans le district de Pulwama. Les insurgés ont ensuite pris la fuite. Signature hier d'un protocole d'accord entre les industries militaires d'Arabie Saoudite et le groupe français Naval Group, et ce afin de créer une entreprise commune. Elle produirait et développerait en Arabie Saoudite des systèmes navals. Aucune précision cependant n'a été donnée quant au type de navire et d'équipement susceptible d'être construit dans la péninsule. Début d'une semaine décisive au Venezuela. L'aide humanitaire américaine passera les frontières vénézuéliennes ce samedi, a annoncé le président autoproclamé par intérim, Juan Guaido. L'opposant à Nicolas Maduro espère créer samedi donc une avalanche humanitaire. Il donne pour cela rendez-vous à ses partisans pour convoyer l'aide stockée dans les pays frontaliers, Marine Oriot.
Oui, Xavier, l'aide entrera quoi qu'il arrive, a-t-il déclaré, par la terre ou par la mer. Juan Guaido compte sur le soutien d'un million de volontaires. Des volontaires organisés en caravane. En fin de semaine, ils se rendront en autocar à Cucuta, sur la frontière colombienne. C'est là que sont installés 2 centres de stockage. C'est aussi le point d'arrivée de l'aide qui sera envoyée depuis l'île néerlandaise de Curaçao. L'aide attendue de l'autre côté de la frontière depuis le 7 février. Le président Nicolas Maduro a déployé l'armée sur les points de passage. Juan Guaido a renouvelé son appel aux militaires à se mettre du côté de la Constitution et à laisser passer les vivres. Des miettes, selon Nicolas Maduro, de la, je cite, nourriture pourrie. Le président nie toute urgence humanitaire dans un Venezuela frappé par les pénuries dont les sanctions américaines sont responsables, selon lui. Il refuse depuis le début l'entrée de cette aide. Il considère que c'est un prétexte pour préparer une intervention militaire des États-Unis. Pour le président chaviste, cela ne fait aucun doute. Donald Trump et Iván Duque ont annoncé des plans de guerre contre le Venezuela, a-t-il déclaré.
Marine Henriot. Plusieurs ressortissants étrangers étrangers et un haïtien ont été arrêtés dimanche soir dans le centre de Port-au-Prince en possession d'un arsenal d'armes automatiques. Ils ont été inculpés d'associations de malfaiteurs. Le groupe a été arrêté dans la soirée à un point de contrôle policier à proximité de la banque centrale haïtienne. 6 fusils d'assaut, 6 pistolets, quantité de cartouches, 5 gilets pare-balles, 2 drones professionnels, plusieurs plaques d'immatriculation haïtienne et 2 véhicules ont été saisis par la police à cette occasion. Alors, cette arrestation a lieu alors que Haïti traverse une période de forte instabilité. Notre dossier aujourd'hui donc consacré à la rencontre sur la protection des mineurs organisée cette semaine à Rome de jeudi à dimanche. Rencontre qui suscite de très fortes attentes au sein de l'Église catholique et dans toute la société. Cette réunion des présidents des conférences épiscopales autour du pape François sera une étape importante dans la prise en compte de ce phénomène des abus sexuels sur mineurs face auxquels les différents épiscopats n'ont pas réagi au même rythme. Le père Stéphane Joulin, membre de la Société des missionnaires d'Afrique, est un psychothérapeute ayant accompagné des victimes d'abus mais aussi des auteurs d'abus. Il nous explique comment l'Église peut et doit prendre en compte ces phénomènes pour répondre à sa responsabilité vis-à-vis des plus petits, qui n'est pas seulement institutionnelle, mais surtout évangélique, à la suite du Christ.
Il faut que l'Église développe une aptitude à l'empathie de manière profonde, qu'elle saisisse qu'est-ce que ça demande à une victime pour oser la parole. Parfois, les victimes ont essayé des fois de parler. On voit bien que les enfants peuvent tester pour voir s'ils vont être entendus. Et si on a renié leur parole en disant « mais non, tu racontes des bêtises » ou « c'est faut pas dire des choses comme ça » ou ainsi de suite, ils vont se replonger dans le silence. Et plus ils vieillissent, plus ils ont des choses à perdre. En termes d'image, de respectabilité, de construction d'eux-mêmes, ils construisent des familles et autres, tout ça. Et plus on a de choses à perdre, plus ça devient difficile de parler. Donc il faut bien se rendre compte de ce que ça demande. Moi, je me rappelle toujours de cet homme, un homme d'une cinquantaine d'années, qui me disait, mais au moment où on atteignait la prescription des faits, j'étais encore à me demander comment j'allais en parler à mes parents. C'est pas de dire simplement, oh voilà, on m'a volé 50 euros, ou c'est pas ça. C'est vraiment, on m'a souillé, on a bafoué mon corps, on ne m'a pas respecté, je me suis trouvé dans une situation d'impuissance, j'ai pas été reconnu. Donc c'est pour ça que l'Église doit vraiment prendre avec patience un apprentissage de l'écoute qui arrive à se mettre en bonne balance avec toute la souffrance de l'autre. Et bien voir qu'est-ce que ça lui demande comme effort pour pouvoir oser la parole.
Jésus s'est incarné dans le monde d'abord comme un enfant. C'est un phénomène assez extraordinaire dans l'anthropologie des religions. Est-ce que du coup le christianisme a une mission particulière, prophétique, non pas simplement à l'échelle de l'institution de l'Église, mais à l'échelle du monde pour encourager la parole de l'enfant et la sacralité de l'enfant?
Jésus a un message extrêmement révolutionnaire. Quand on lui demande qui est le plus grand dans le royaume des dieux, il met un enfant au milieu. Et alors quand on sait que dans la société juive de l'époque, l'enfant n'avait pas nécessairement une valeur très très grande, donc Jésus prend le contre-pied de ça et met l'enfant au milieu. Et il dit voilà le plus important dans le royaume de Dieu. Et non seulement il dit voilà le plus important, mais malheur pour celui qui va lui faire du mal. Là il nous montre toute la sacralité de la personne humaine qui s'exprime le plus clairement dans l'enfant. L'enfant qui est dépendant de tout autre, qui ne peut pas acquérir tout ce qu'il veut par lui-même. Et Jésus dit, mais c'est ça qu'il faut protéger. C'est cette valeur-là, humaine, fragile. Et c'est toute la pédagogie divine aussi de s'incarner, d'accepter de dépendre de parents, d'accepter de dépendre d'autres, de se recevoir d'eux autres. Cette fragilité de la chair incarnée dans le petit enfant nous redit toute la valeur de l'enfant. Et ce trésor qu'est cette vie et cette divinité qui se donne à nous. Donc je pense que là, il y a un vrai enjeu évangélique à faire que l'enfant soit respecté, soutenu, accompagné, protégé contre tout ce qui pourrait chercher à le détruire ou à attaquer son intégrité.
Il y a un dernier aspect que je voudrais aborder avec vous, c'est la notion de responsabilité des évêques. Le langage anglo-saxon parle d'accountability, c'est un terme très difficile à traduire pour le monde francophone. Comment vous pouvez nous expliquer un peu comment cette conception du rôle de vigilance des évêques peut être mieux prise en compte dans le gouvernement épiscopal?
Pour moi, l'expression qui rend le mieux l'expression anglaise d'accountability, c'est la reddition de comptes. On dit là, non, sur ces questions-là, on va vous demander des comptes. Dites-nous ce que vous faites comme travail. On n'accepte plus que vous nous dites simplement, on travaille à ces questions-là. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez fait combien de réunions? Qui était présent? Quels sont les sujets que vous avez travaillés? Que le peuple de Dieu demande à ses pasteurs des comptes, je trouve que c'est plutôt ça. C'est pas des brebis qui se laissent mener béatement et sans réagir. Ils sont prêts à suivre un pasteur, mais il faut que leur pasteur leur donne les signes que ça vaut le coup de les suivre. Je pense que ça, c'est fondamental. Et pour ça, il faut qu'ils montrent que leurs actions sont là où sont leurs paroles. Parce que ça, c'est vraiment un défi de cohérence interne et d'intégrité. Et c'est seulement à ce prix-là, je pense, que la confiance va être gagnée.
Interrogé par Cyprien Viette, le père Stéphane Joulin, membre de la Société des missionnaires d'Afrique, communément appelé les Pères Blancs, et psychothérapeute, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h, heure de Rome. D'ici là, notre site internet www.vaticannews.va. Excellente journée à toutes et à tous.